SBS Radio.
La Chambre des députés et le Sénat votent immédiatement le principe de funérailles nationales. Il a demandé dans son testament le corbillard des pauvres, parce qu'en ce temps, il y a des corbillards de toutes les sortes. L'immense corbillard de luxe pour les gens qui sont très riches, et puis le pauvre petit corbillard des pauvres. Il a demandé celui-là. On va lui obéir, bien sûr, mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ce corbillard des pauvres va être porté sous l'Arc de Triomphe. Et que 2 millions de personnes viendront s'incliner devant ce cercueil ou passer la nuit à le veiller. Et le lendemain, on le conduit au Panthéon.
La voix d'Alain Decaux, l'historien français, qui nous renvoie à cette journée du 1er juin 1885. Oui, 2 millions de personnes dans les rues de Paris pour accompagner jusqu'au Panthéon le cercueil de Victor Hugo. L'écrivain, né en 1802, qui a parcouru tout le 19e siècle, il s'est exilé sur les îles anglo-normandes durant 20 ans, durant le Second Empire de Napoléon III. Il est revenu à Paris en 1870, quand a été proclamée la Troisième République. Victor Hugo, le poète, le romancier, l'homme engagé contre la peine de mort, l'homme engagé pour les valeurs de la République. Il s'est éteint dans la rue qui portait son nom depuis 3 ans à Paris, le 22 mai 1885. Un choc pour tous les Français de l'époque, pour toute la classe populaire qui s'était identifiée à ses combats et aux personnages de ses romans, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Très vite, les députés, après sa mort, ont décidé que Victor Hugo aurait droit à des funérailles nationales, qu'il ne serait pas enterré dans le caveau familial au Père-Lachaise, mais au Panthéon, l'écrivain et universitaire Bruno Berterat.
Le régime l'a soigné et il a défendu le régime républicain. Donc c'est vraiment un échange bon procédé entre le grand écrivain qui est le grand homme et le régime qui lui doit beaucoup. Dire que ce sont des funérailles nationales, cela veut dire que la nation s'implique dans ces funérailles et veut les rendre très importantes. Donc il y avait eu auparavant Gambetta, mais Gambetta n'a pas été au Panthéon puisque son père s'y opposait et est enterré à Nice. Il y a eu ensuite Victor Hugo, de manière à ce que la République, telle qu'elle était en place, libérale, soit confortée dans son existence. Mais c'était important puisque le régime était assez neuf, il fallait vraiment bien se poser. Et les funérailles de Victor Hugo, c'est l'équivalent des funérailles des rois pour les régimes monarchiques. C'est vraiment ça, c'est le grand homme qu'on enterre, mais avec lui, c'est la République qu'on célèbre. Tout a été mis en scène pour que ça fonctionne bien. Le Panthéon a été repris donc par la République pour en faire le tombeau des grands hommes. Donc c'était une opération qui a magnifiquement réussi.
Il s'est écoulé 10 jours entre la mort de Victor Hugo et sa célèbre barbe blanche et ses funérailles nationales le 1er juin 1885. Victor Hugo, emporté par une congestion pulmonaire. Durant ces 10 jours, il n'était plus question que de lui, de sa mort. Les journaux de l'époque ont relaté les tractations, les luttes d'influence entre le clergé, notamment l'Église, qui souhaitait que se tienne une messe en son honneur, et le gouvernement. Chacun voulait récupérer en quelque sorte l'icône Victor Hugo, l'événement et ce grand moment de communion qui s'annonçait. Il n'y a pas eu de messe à Notre-Dame, ce monument que l'écrivain a contribué à sauver et à réhabiliter avec son roman qui lui était dédié, Notre-Dame. Pas de messe, pas de débordement populaire non plus. Les acteurs politiques de la Troisième République craignaient que ses obsèques fassent souffler sur la France un vent de révolution. Les autorités ont donc veillé à ce que ces funérailles soient parfaitement encadré malgré l'émotion suscitée dans tout le pays.
Le gouvernement a très très peur de cette émotion populaire. Donc le gouvernement va choisir le jour des funérailles, un lundi, qui sera férié pour les écoliers, pour les théâtres, pour les magasins, pour tout le monde, mais pas dans les usines. Comme ça, ils ne seront pas là. Et le tracé qui va éviter les quartiers populaires. Il y a de la police partout, les gens sont fouillés, les drapeaux rouges sont interdits. Tous ceux qui ont des files sont allés chercher des papiers à la préfecture et ont juré qu'ils ne voulaient pas la révolution. Il y avait des courants politiques très forts et c'est une république bourgeoise qui s'installe, hein, celle dont on a hérité, et qui a très peur du peuple.
Judith Périgon, écrivain qui a consacré des ouvrages à la vie de Victor Hugo, elle revient sur l'incroyable engouement autour des funérailles nationales de Victor Hugo tout au long du cortège le 1er juin 1885 de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde de l'Assemblée nationale, au Panthéon, en haut de la colline Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, des centaines et centaines de milliers de personnes venu ce jour-là dire au revoir au grand homme.
Il y a eu 600 000 personnes qui se sont mises ce dimanche dans la foule, dans la queue en fait, pour défiler devant le cercueil. Certains n'ont même pas pu parce qu'à 7 heures du soir, ils ont tout arrêté. En revanche, les gens sont restés, ils ont fait une fête. Donc les gens se sont fait plaisir. Il faut imaginer que la foule est toujours très dense. Il y a même des enfants accrochés au réverbère. Hein. Il fallait être là, donc il y avait des gens sur les toits, il y avait des gens sur les balcons, il y avait des gens qui avaient mis des tables, puis des chaises, puis des escabeaux. On louait un bout de chaise. C'était noir de monde.
Le Panthéon. Lorsque la dépouille de Victor Hugo est entrée au Panthéon, cela faisait plus de 50 ans qu'aucune personnalité n'y avait été inhumée. Le Panthéon, ce bâtiment du cœur de Paris qui a été tout au long du XXe siècle au centre d'une bataille entre l'Église qui voulait que le lieu reste un lieu de culte et les fervents de la République qui souhaitaient que les noms de la France, les grands noms, puissent y reposer, désacraliser le Panthéon. Aujourd'hui, les corps de plus de 80 personnalités ont été transférés au Panthéon. Victor Hugo, lui, y a été enterré directement, nous l'avons dit. Sa tombe se trouve entre celle d'Émile Zola et celle d'Alexandre Dumas, deux écrivains qui ont été ses contemporains au XIXe siècle, mais dont la dépouille a été transférée plus tard, au Panthéon. Gaëtan Bruel, nous terminerons avec lui, administrateur du Panthéon.
Ce lieu, au début de la Troisième République, au moment où Victor Hugo meurt, c'est pas encore le temple laïque et républicain des grands hommes. C'est encore une église, c'est le symbole même de la royauté absolue et du christianisme. Et c'est tout le sujet de la panthéonisation de Victor Hugo qui est, pour les républicains, de profiter de cette occasion pour réaliser leur vieux rêve, né de la Révolution française, de transformer ce monument, de le consacrer définitivement à ce culte laïque et républicain des grands hommes. Son cercueil se trouve derrière cette pierre depuis 1885. En un premier temps, il a été présenté au public, qui est venu lui rendre hommage en déposant des fleurs, des éléments d'hommage. Mais depuis lors, il est derrière la pierre et il n'a plus bougé depuis.
sbs.com.au